À vrai dire, moi j'ai l'impression que cette discussion dans cette commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants vient à ce moment-là parce que justement il y a la question irakienne. D'un côté, les démocrates qui sont maintenant majoritaires à la Chambre des représentants veulent mettre en difficulté le plus possible l'administration républicaine et donc George Bush, et les menaces de représailles des autorités turques vont très bien aux démocrates. Effectivement, l'opinion publique turque est extrêmement animée par des sentiments assez revanchards et violents à l'égard du terrorisme du PKK, les séparatistes kurdes, qui ont trouvé un terrain libre, plus ou moins sans contrôle, dans le nord d'Irak, dans cette administration autonome du Kurdistan irakien. Et bien entendu, dans ces sentiments envers les séparatistes kurdes, il y a également un sentiment anti-américain, dans la mesure où les Américains sont accusés par l'opinion publique ainsi que par les officiels turcs de ne pas prendre des mesures nécessaires au nord de l'Irak pour empêcher ceci. Mais de l'autre côté, les États-Unis, l'administration Bush, ayant passé des accords avec l'administration du Kurdistan irakien, ça devient un jeu très très difficile de contrôler cette région très montagnarde par ailleurs.
Quels sont les moyens qu'a la Turquie de faire pression sur les États-Unis?
La Turquie a des moyens de pression. Il y a la base de l'OTAN à Incirlik, d'où partent une grande quantité de ravitaillement de l'armée américaine en Irak. Et si la Turquie soit ferme la base américaine d'Incirlik, soit interdit aux avions américains de traverser l'air turc, les États-Unis aura des difficultés dans le renfort de l'armée américaine qui se trouve en Irak. Mais je me demande si les démocrates ne veulent pas justement cela. C'est exactement ce que veulent Nancy Pelosi et puis les démocrates qui l'entourent à la Chambre des représentants. Donc, ces moyens de pression existent, mais est-ce qu'ils sont efficaces dans la mesure où il y a ce jeu interne politique aux États-Unis également?
Les relations entre Ankara et Washington sont très amicales, surtout depuis 1952. Est-ce que vous pensez qu'à terme, finalement, cette histoire qui pour l'instant peut rester anecdotique pourrait prendre vraiment des proportions inquiétantes dans la relation entre les deux pays?
Écoutez, ça peut être un tournant. Effectivement, à partir de 1951-52, après la guerre de Corée, la Turquie est devenue membre de l'OTAN et est devenue l'allié principal avec Israël, bien entendu. D'ailleurs, c'est le seul allié d'Israël dans la région des États-Unis, et dans la politique de containment de Henry Kissinger, ça a joué un rôle très très important durant la guerre froide. Après la guerre froide, est resté à demeurer comme allié principal dans la mesure où il y avait la question irakienne, il y a la question iranienne, et il y a eu cette question d'islam radical qui a été érigée en tant que nouvel ennemi des États-Unis, l'axe du mal, etc. Et donc la laïcité turque, etc., a été considérée comme un allié principal. Mais n'oublions pas qu'en 1964, on était en plein guerre froide, et lorsque les Turcs ont tenté d'intervenir à Chypre et lorsque les Américains n'ont pas permis cette intervention, exactement comme aujourd'hui en Irak, il y a eu une rupture et une orientation plus plurilatérale vers la Russie, vers l'Europe également. C'est exactement à cette date que la Turquie demande sa première intégration européenne en 1964. Depuis cette époque-là, la Turquie n'a pas les États-Unis comme seul allié, mais il peut y avoir effectivement des changements d'attitude, mais Ankara étant plutôt en relation froide avec l'Union européenne, je ne crois pas qu'il y ait une rupture totale des relations entre la Turquie et les États-Unis. Ankara a besoin des États-Unis comme les États-Unis ont besoin de la Turquie.